Salut et bienvenue dans Gueule de bois. Je suis Peter Kummel et j'ai écrit le livre « Ça va n'aller ». C'est un livre qui traite d'amour et surtout de dépendance, en particulier à l'alcool. J'ai écrit ce livre parce que j'avais besoin de libérer ma parole, mais aussi parce que je voulais que les personnes touchées par les addictions se sentent moins seules. J'ai créé ce podcast parce que le sujet me passionne et qu'on n'entend pas assez d'informations, de témoignages sur les addictions. Et parce que quand je galérais moi-même avec l'alcool, avec la coke, j'aurais aimé pouvoir entendre d'autres personnes en parler. Ce podcast est fait pour les personnes touchées de près ou de loin par les addictions, pour celles et ceux que le sujet intéresse, pour démystifier, pour déculpabiliser, pour partager. Chaque addiction est abordée à travers quatre regards différents. Celui d'une personne qui consomme, d'une personne qui travaille dans le secteur médical, une personne abstinente et enfin une personne de l'entourage. Pour ce troisième épisode autour du travail, j'ai la joie d'accueillir Lisette Lombé. Lisette est poétesse, écrivaine, slameuse, collagiste. Elle est une artiste pluridisciplinaire qui, avant de se consacrer à son art de dire, d'écrire, de vivre, était salariée jusqu'à ce qu'elle soit victime de burn-out. Dans son livre « La magie du burn-out » paru en 2017 aux éditions Images Publiques, elle nous raconte dans la douceur de l'intimité des lettres.
« Cher ami, je ne suis pas étonnée par ce que tu me confies. Pour une personne qui a tellement repoussé ses limites dans le travail, une personne bosseuse, perfectionniste et résolue comme toi, l'idée de rester sur le carreau doit être insupportable. Cette paralysie, c'est tellement peu toi. Ton corps t'a crié halte à la maltraitance. » De manière intransigeante, radicale. Maintenant, il refuse ta course aveugle et te demande réparation pour ce que tu lui as imposé. Que tu le veuilles ou non, il y aura un avant et un après, après ce diagnostic couperet du burn-out.
Bonjour Lisette.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'est arrivé ?
Oui, j'ai rejoint la grande famille des gens cramés par le travail et l'absence de sens dans le travail en 2015, mais je pense que ça avait commencé avant. En tout cas, mon dernier travail, c'était un travail de travailleuse sociale. Je travaillais dans une association féministe et j'ai d'abord, maintenant que j'ai un peu de recul, je peux comprendre ce qui a dû se passer. C'est que j'ai d'abord accepté... un remplacement, si tu veux, il y a deux postes de travail qui se sont chevauchés, donc mathématiquement il y avait trop d'heures de toute façon à la fin de la semaine. Et puis comme toute personne qui travaille dans l'éducation permanente, je pense que les injonctions paradoxales, le fait d'être en très grande écoute, très grande porosité par rapport à la souffrance du public qu'on accueillait, alors que je n'avais pas moi des outils de psychologue ou de psychothérapeute, mais quand même en étant en première ligne, je pense que ça a dû attaquer une forme de sérénité. Et puis je pense que le manque de reconnaissance aussi, donc c'est-à-dire d'être dans un travail où on essaye de on travaille avec des bouts de ficelle, quand il n'y a pas la reconnaissance de la hiérarchie, on y laisse des plumes. Et enfin, je pense que d'avoir été à un endroit de revendication pour mes collègues et pour moi-même, ça m'a mis à un endroit je pense de fragilité aussi.
Tu écris.
Pendant 10 ans, j'avais été à l'écoute des problèmes et des colères des autres, alors que ma mission de vie, je le découvrais, s'inscrivait dans un mouvement inverse. Offrir des émotions, donner à entendre, être une passeuse d'histoire.
Dans l'épisode précédent, avec Antonia, la thérapeute, elle nous parle de catégories de personnes en burn-out qui sont les personnes au service des autres, mais au point de s'oublier elles-mêmes. Comment, toi, tu t'es rendu compte qu'il était temps pour toi de donner à entendre plutôt que d'écouter les problèmes et les colères des autres ?
Moi, je m'en suis rendu compte parce que j'ai été invitée à dire un texte. Bon, là, de nouveau, c'est un peu les hasards, mais j'ai été invitée à dire un texte sur scène par quelqu'un que je ne connaissais pas, mais qui faisait confiance à ce qu'elle avait lu dans un magazine féministe. Et c'est à la descente de cette scène, en tout cas, ou déjà sur cette scène, que j'ai senti, mais vraiment physiquement dans mon corps, une espèce d'inversion de parole. Et ça a été vraiment une prise de conscience instantanée que jusque-là, que ce soit comme enseignante, que ce soit comme formatrice ou dans ma vie privée aussi comme mère, j'étais à un endroit d'écoute, à un endroit d'empathie, mais peut-être même doublé d'un endroit de porosité, parce qu'on peut être dans l'écoute et dans l'empathie sans que ça nous fasse, en tout cas, perdre des énergies à ce point-là. Voilà, dans des environnements avec des publics dits fragilisés, dans des écoles dites difficiles, dans des environnements quand même difficiles. Et voilà, je pense que ça a entamé, mais que là, sur scène, pour la première fois, j'entendais que ma colère ou ce qui me faisait du mal, je ne devais pas le garder. Je pouvais, entre guillemets, le cracher. Bon, c'est un terme plutôt slam. Je pouvais le cracher, le faire ressortir. Et donc, du coup, la combustion s'arrêtait parce que ça sortait. Ça, je l'ai senti comme une fulgurance. Et à la descente, j'ai dit à ma mère, à la descente de la scène, j'ai dit « je ne retournerai pas à mon travail ». Elle a poussé presque un cri. « Mais tu es folle, tu as des enfants, un CDI, t'es salariée. Voilà. »
Et ça, c'était un 17 janvier, c'est ça?
Oui, 2015. Mais j'ai eu une certitude, et c'est une certitude qui est pré-artistique. Donc, ce n'était pas que je me disais que là, c'est vraiment un premier texte de scène qui est purement de l'ordre de la catharsis. Donc, il n'y a vraiment rien d'artistique. Mais j'ai quand même senti quelque chose de juste.
Et en même temps, tu dis ça, mais moi, ce que j'ai lu dans le livre, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, parce que je ne l'avais pas encore dit, c'est que tu écrivais déjà avant. Donc, tu dis que tu es dans un prémisse à ce moment-là, un prémisse artistique, mais j'ai l'impression que l'art était déjà présent chez toi, puisqu'il y avait déjà les collages, il y avait déjà l'écriture, il y avait déjà la poésie. Donc, j'ai l'impression que tout ça était là, mais que c'est peut-être le 17 janvier que là tu as pris la décision de lui donner sa place.
Oui, et peut-être quelque chose qui doit être lié à la légitimité. Donc, c'est-à-dire, tu peux... Moi, oui, j'avais fait des expos, mais j'allais dire petite expo, mais je pense que c'est ce que je pensais. Donc petite expo en centre culturel ou dans des bars, mais pas dans l'idée de vivre de ces expos ou avec un plan de carrière ou de me dire tiens après c'est les galeries etc. Donc vraiment aucune connaissance du milieu, aucune connaissance des codes et plus des choses de nouveau. Voilà, les collages ils sont sortis de ma troisième maternité, j'étais enceinte, j'étais dans les insomnies, il y avait quelque chose qui devait être dit à ce moment-là. Et les premiers livres, ça a été la même chose aussi, comme une forme de jaillissement, sans vraiment une réflexion, quelque chose de très construit. Mais maintenant, ce qui est vrai, c'est que l'écriture est présente depuis l'enfance, et probablement la créativité aussi, mais que ça a dû être dévoyé ou mis au frigo, ou oublié, ou pour X et X raisons. Donc je pense pas que je sois, des fois on dit la naissance, je pense pas que ce soit une naissance, peut-être une renaissance ou quelque chose qui était endormi, ou une reconnexion, mais ça devait déjà être là.
Tu vois le collage là, c'est ma mère qui faisait des collages.
D'accord.
Je me suis toujours demandé quelle aurait été sa vie si elle avait emprunté cette voie-là. Tu vois, si elle avait continué les collages, parce qu'elle commençait à se faire quand même son petit réseau.
Qui est superbe d'ailleurs.
Et en fait, elle était quand même publiée dans des magazines de photos, etc. de l'époque. Et donc, moi, de mon regard d'enfant, quand je voyais ça, je me disais, mais waouh, enfin, tu es une artiste. Mais évidemment, elle ne le voyait pas de cette façon-là, elle, puisque c'était juste, comme tu dis, j'ai fait une petite expo par-ci, par-là, ben... Toi, quand tu vois ça de l'extérieur, tu te dis « Waouh, mais c'est une vraie artiste si elle fait des expos et tout ça. »
Bien sûr. Après, ça appartient, je pense, la frontière entre collage, bricolage, tu vois.
Ouais.
Moi, quand j'étais étudiante, j'avais dans mon salon quelque chose qui devait faire 3 mètres sur 2, composé de petits carrés. Le thème, c'était le rouge, c'était le désir, c'était de la passion. Je pense que je devais être passionnée pour quelqu'un et hop, il y a eu un truc impérieux où j'ai commencé à découper des carrés comme ça dans les magazines. J'arpentais les rues le jour du ramassage des papiers. C'était bon, mais seulement, personne ne m'a jamais dit c'est de la déco en fait. Mais je pense que tout était déjà là, c'est-à-dire l'impériosité, quelque chose qui s'impose à toi et ça doit absolument jaillir avec une idée fixe, un truc qui t'habite. Quelque chose qui était un peu à ce moment-là monumental par la taille. et où tu te poses pas la question. Ça, le truc se fait. Quand je vois après mes collages d'expositions, il y a cette récurrence des motifs, ces carrés répétitifs, etc. Donc je me dis tout était déjà là, mais j'étais pas dans un environnement où ni les personnes extérieures me renvoyaient que ça pouvait être quelque chose d'artistique, ni moi-même. Ça m'est jamais venu à l'idée que ça pouvait être de l'ordre de quelque chose qui approchait l'artistique. Ta cage de dégrisement se balance à la corde de tes débordements, déplacement métronomique de ta nausée dans l'amertume des lendemains, bulle, noir éthylique, paupières qui s'affaissent sur ton rire de crapaude, gesticulation, postillon, distribution gratuite de remarques discourtoises, invité chagrine, zébrule d'exposition, tu titubes, tu crapahutes, dernier vers après le dernier vers, fond de vérité, larmes, noir éthylique, parenthèse déposée sur ta vie. Ta cage de dégrisement s'avance à la corde de tes débordements. Et si tu lui disais que tu ne l'aimes plus ?
Un des super beaux passages, je trouve, du livre. Et du coup, moi qui me parle particulièrement. Et quand j'ai lu ça, il y a une question qui m'est venue. Si on considère ta relation à ton ancien travail comme une addiction, est-ce que tu penses avoir dans ce temps-là déplacé ton attention, ton addiction sur l'alcool ou un autre produit ou comportement?
Alors je ne sais pas si c'est des déplacements ou si c'est des choses qui sont concomitantes et que c'est une manière d'être. Je ne sais pas, je dis exagérée, extravagante, trop ouverte, trop poreuse. Moi, j'ai l'impression, avec du recul, que, en tout cas, la consommation, l'alcool, la fête, à cette époque-là, était c'était vraiment une échappatoire par rapport à une vie pépère, une vie de train-train, une vie. J'essaie de voir comment. En fait, j'ai pas envie de dévoyer le terme de burn-out qui est pour moi est vraiment lié à la question du travail. Et c'est pour ça que je sais que, et dans le livre et dans la conférence gesticulée qui était liée au livre, je marchais sur des œufs parce que je voulais pas qu'on puisse me redire que ça allait mal dans tous les pans de ma vie. Je voulais vraiment me concentrer sur la question du travail parce que je sais que c'est dit aux personnes qui sont en burn-out, c'est que ça éclate de partout. Et j'ai essayé de retrouver une espèce de chronologie et de l'inverser, de me dire en fait, c'est pas parce que ça foirait dans le couple ou parce que moi, existentiellement, j'étais dans une quête identitaire, que ça a amené à un effondrement au travail. C'est qu'au travail, concrètement, il y avait trop d'heures, il n'y avait pas assez de reconnaissance, il n'y avait pas assez de sens, et que tout d'un coup, il y a eu une brèche telle, un incendie tel, qu'il a fallu regarder aussi d'autres choses, et surtout que ça a eu des conséquences. Parce qu'effectivement, si on monte en volume d'heures, on n'est pas présent ou on est moins présent. Si par-dessus ça, on cumule les fêtes, enfin tout ce qui faisait la vie de toute façon, qui est ou qui n'est pas travail, on va accumuler la fatigue, l'irritabilité qu'on ramène du boulot, ben, elle ne s'arrête pas à la porte de la maison. Et donc moi, je ne voulais pas en fait qu'on confonde par exemple une dépression qui aurait touché tous les pans de ma vie et un burn-out qui était vraiment que épidermiquement je pouvais plus retourner sur mon lieu de travail, je devais changer de rue, je devais faire des contournements de lieu, je pouvais plus parler à mes collègues, je pouvais plus parler aux personnes, aux femmes que j'avais accompagnées pendant tellement de temps, je changeais de trottoir quoi. J'avais un nœud à l'estomac terrible. Quand on crame comme ça sur le lieu de travail et qu'on n'y revient pas, on n'a plus de lecture de ce qui s'y passe. Et moi, je pense que la chance que j'ai eue, et c'est pour ça, c'est de là qu'est né le livre, et je le dis en intro, que c'est aussi renvoyer l'ascenseur à mes collègues, c'est que le hasard a fait que je me revienne sur mes pas à un moment donné, et que j'apprenne que d'autres collègues qui avaient les mêmes fonctions mais dans d'autres provinces avaient sauté, d'autres avaient démissionné, d'autres étaient partis faire un tour du monde, mais enfin sur la dizaine qui était là, il n'y avait plus personne, et que la personne que j'avais remplacée était aussi extrêmement fatiguée et que la suivante aussi. Et donc c'est seulement en faisant ce lien-là que moi j'ai pu, alors que je m'étais aussi mise à un endroit de me dire que ok, c'est une crise existentielle, ça va toucher le couple, ça va toucher la famille, ça va toucher le travail. Là, j'ai pu me redire, non, il y avait quand même, même s'il y avait crise existentielle, il y avait quand même réellement un problème structurel et de travail. Parce que quand autant de salariés sur des postes semblables sautent en si peu de temps, et des jeunes salariés, plus jeunes que moi, et des plus âgés aussi, mais quand il y a autant de monde qui saute, c'est qu'il y a un problème structurel.
Il y a une chose que la thérapeute disait aussi que je trouvais intéressant, mais c'est pas que ça contredit, mais du coup ça ramène de nouveau à la famille, tu vois, à la notion plus personnelle et privée. En fait, elle parle du lien intrinsèque entre sphère privée et professionnelle, et que ces deux sphères sont indissociables finalement l'une de l'autre, au point que souvent on va reproduire des schémas qu'on a dans la famille au sein du travail.
Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est simplement, et ça, je sens, hein, je sens que. Enfin, nous, on est une famille. Le travail occupe beaucoup, beaucoup de place dans notre famille. Pour mon père, d'origine congolaise, congolais, je pense que c'est lié à l'intégration et que le travail est une des portes d'entrée, ou a été une des portes d'entrée royale à une certaine époque pour l'intégration, pour lui et pour ses enfants. Pour ma mère, parce que son parcours scolaire avait été plus chaotique et que le travail était une manière de retrouver une forme d'émancipation sociale et d'équilibre. Donc ça, on a, dans notre famille d'ailleurs, on le dit toujours, on n'a peut-être pas eu des exemples de couples amoureux, mais la valeur travail, c'est quelque chose central chez mes oncles, chez mes tantes, enfin partout, tout autour. Donc ça, on a baigné dedans, et je pense que du coup, moi, ce que ça m'a forgé comme image, c'est qu'on doit être là fidèle au poste, qu'on ne peut pas être malade, qu'on doit arriver à l'heure, qu'il faut toujours, faut vraiment, vraiment, vraiment être malade pour ne pas se déplacer sur son lieu de travail, qu'il y a toujours une possibilité d'y aller, que ça se déconnecte jamais totalement. Enfin, en tout cas, je pensais à mon travail de salarié, une espèce de loyauté aussi, voilà, la direction. J'essayais maintenant de réfléchir quand j'étais enseignante. Ben voilà, ça débordait toujours quand même un peu sur les vacances. Moi, je ne pouvais pas regarder un documentaire ou quelque chose à la télé sans penser « Ah tiens, ce serait bien pour mes élèves. » Voilà. Donc, et ça reste. Je pense qu'aujourd'hui, je continue à avoir une difficulté à me déconnecter. Mais comme je suis dans un domaine artistique, cette difficulté à se déconnecter se traduit en création artistique, donc ça me semble moins moins grave. Alors j'en ris, je dis bah oui, bah voilà, un artiste qui envoie des mails à 22h, bon, c'est un artiste quoi, ou à 5h du mat, si je discute avec un de mes éditeurs là qui se lève aussi à l'aube, on rigole parce qu'on est sur des cycles de création qui font qu'on est éveillé tard ou tôt. Mais néanmoins, je pense que c'est exactement le même mécanisme, et que si d'aventure cette charge de travail que je m'impose, ou en tout cas qui m'est imposée par la création, venait à ne pas être payée de reconnaissance, s'engrangerait de nouveau le même mécanisme, c'est-à-dire d'entrer dans un métier comme un sacerdoce, et s'engrangerait le même mécanisme que la prof qui se croit dans le cercle des poètes disparus, qui croit qu'elle va révolutionner sa classe, et puis on lui dit « je t'emmerde l'ombé, et c'est foutu » ou « ouais, j'en ai rien à foutre », voilà. Donc j'ai l'impression que je ne sais pas si on peut totalement se guérir d'une forme de tempérament. Moi, tu sais, dans la conférence, je disais, si demain tu me dis que je vends, je sais pas, des frites, Je pense que je serai levée tôt, que je resterai angoissée par les ventes, que j'aurai quand même un suraccueil du public, même si je vends des frites, j'aurai l'impression de vendre un truc où tu vas quand même accueillir les gens avec un gros... voilà, j'en ferai toujours un peu trop, alors ça doit être lié au tempérament. Mais, c'est pour ça que je dis c'est individuel, mais que quand un management engage des gens... en sachant que ce tempérament-là va servir la boîte, mais en sachant aussi que ce tempérament-là mène à la perte des gens individuellement, mais que c'est pas grave parce que c'est des fusibles, donc ça c'est la responsabilité du management. C'est courageux de ta part de te poser ces questions-là. Moi, pendant 6 mois, j'ai cru que je pourrais faire l'économie d'un détour par ma sphère privée pour dépasser mes difficultés professionnelles. Comme si ces différents aspects de ma vie n'interféraient pas entre eux. Comme si l'énergie n'était siphonnée que par une unique béance. Je me sentais tellement fragilisée que l'idée même de me remettre en question sur plusieurs fronts à la fois me paralysait totalement.
Et finalement, comment tu as trouvé le courage d'affronter ta sphère privée ? Et qu'est-ce que tu as mis en place pour qu'elle redevienne vivable ?
Je n'ai pas dû faire preuve de courage, ça a explosé.
Ah ouais. Donc, voilà. voilà au moins les choses.
Parce qu'il faut quand même dire que ça a des impacts. Hein. En général, ça se tasse quand tu as la possibilité de faire un réaménagement d'heure et de revenir sous certaines conditions sur ton lieu de travail. Là, je pense que la déflagration avait été tellement forte. Et que, bon, d'abord, il faut se récupérer physiquement. Ça prend du temps. Et l'entourage a toujours eu l'habitude d'avoir en face de soi une personne qui ne compte pas ses heures, mais y compris dans le cercle familial. Et donc, tout d'un coup, tu te rends compte que tout repose sur tes épaules. Et oui, que ce que tu faisais au boulot, tu le faisais aussi, t'es maman taxi, tu dois être présente, hyper présente pour ton compagnon, pour tes amis. Donc, mais la déflagration a été telle qu'une fois que j'ai eu terminé de discuter avec ma psychiatre des questions de travail, je n'ai pas pu faire l'impasse des mêmes questions appliquées à mon cercle intime. Et donc à partir de là, soit tu t'arrêtes et tu te dis ça, ça concerne que le travail, et voilà, ou si tu vas plus loin, ça ne peut avoir que des conséquences. Et moi, ça a été comme une explosion. C'était un trop de partout, une sensation que je devais tout changer, faire table rase de tout. Je pense que c'était excessif, mais j'étais à un endroit où c'était vertigineux. J'avais l'impression de découvrir ou de redécouvrir une autre personne. Et donc, du coup, je pense qu'à ce moment-là, si dans certaines relations, ça manquait de dialogue, c'est comme si j'étais devenue étrangère à certaines personnes. Et donc, il y a des relations qui n'ont pas résisté à ça. C'est la déflagration était... c'est du jour au lendemain, les gens récupèrent quelqu'un... qui dit non à certaines choses, qui a toujours dit oui, qui change de métier, on a l'impression qu'il ne veut plus retourner à son métier, ça semble une totale hérésie de prendre un C4 médical alors qu'on a un CDI, qui remet en question des projets longs, et qui, tout d'un coup, n'est plus la bonne petite travailleuse, la bonne, je mets des guillemets, épouse, parce que je n'étais pas mariée, mais bon, la bonne petite épouse, la bonne petite mère, la bonne petite amie, fidèle au poste. Il n'y a plus personne, en fait. C'est cramé, il n'y a plus personne. Donc, les gens, c'est compliqué, c'est une maladie compliquée à comprendre, parce que... on la confond avec la dépression. Donc, les gens se disent, tiens, c'est bizarre, cette personne ne sait plus aller travailler. Mais par contre, on la voit, là, aller en micro ouvert de slam. Ça semblait incompréhensible. Voilà, donc les gens ont l'impression qu'on a pété une case, en fait.
Finalement, finalement, il y a aussi beaucoup la présence du regard des autres qui est, enfin, sur soi, qui est difficile à gérer dans ces moments-là et qui empêche même, je trouve, parfois de vraiment travailler sur soi parce qu'on se sent observé littéralement par les autres, on sait qu'il y a des attentes et tout ça et du coup, là je parle pour moi, ça m'est arrivé de faire marche arrière juste pour faire plaisir aux autres en me disant ils ont raison, c'est eux qui savent vers quoi je dois aller. Évidemment qu'on ne vit pas de l'écriture, évidemment qu'on ne vit pas de l'art. Forcément, il faut s'intégrer dans un travail.
Ah, complètement. De toute façon, moi, j'ai pas. Je me sentais très honteuse, en fait, d'être diminuée dans mon canapé. Donc, ça m'a mis en ordre de bataille rapide. Donc, j'ai recherché du travail. Pour moi, c'était impensable de. Alors que j'avais toujours travaillé, de me retrouver au chômage ou après le C4 médical. Donc, je me suis remise à chercher du travail, mais très, très vite. Je pense quelques mois, mais enfin, très, très vite, dans des postes assez similaires. Mais. Et j'avais pas encore. Le franc n'était pas tombé, en fait. Le franc n'était pas tombé. Mais j'avais une espèce d'injonction. Alors, je ne sais pas si je me la mettais moi-même ou parce qu'en fait, finalement, mes proches ne me demandaient pas. Et d'ailleurs, en discutant avec mon père, je pense qu'il n'était pas en Belgique à ce moment-là. Quand il a lu le livre, il m'a dit « Mais tu ne m'as rien dit. Mm-hmm. Je ne savais pas. Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Et je pense que c'était ça. C'était une forme de honte de dire que finalement, tous les diplômes, voilà, ce beau parcours, tout ça allait être galvaudé. Mais tellement j'avais le nez dans le guidon. Je me disais pas... Alors qu'en fait, quelques mois d'arrêt, c'est plutôt un beau luxe qu'une perte de temps, en réalité. Ouais. Mais pour moi, c'était impensable. Donc, j'ai repris trop vite. Et j'ai repostulé trop vite. Sauf que comme j'étais pas guérie, quand j'allais à mes entretiens d'embauche... J'avais vraiment une révulsion, quelque chose. Le corps, je sortais de là, j'étais au bord du vomissement ou de l'évanouissement. Quand j'ai été chez mon médecin conseil, d'entendre des travailleuses qui étaient dans leur pause de midi, mais se plaignaient de leur employeur, j'étais en larmes, j'étais en craquage, en fait. Ça réactivait quelque chose dans mon corps. Et donc, en fait, c'est vraiment le corps qui dit stop. Et même après, quand la pratique artistique a commencé à se déployer dans l'année, j'avais un fossé entre l'énergie de créativité, cette espèce de renaissance, d'écriture, la soif d'écrire, et le corps qui était fatigué. Si bien que je pense qu'alors que j'étais repartie et ayant l'impression de repartir, déjà avoir un pied dans ma reconversion professionnelle, quelques mois après, j'ai eu un ressac, quoi. Vraiment, j'ai dû annuler mes premières dates de scène parce que je ne suivais plus, en fait. Et je n'avais pas écouté, j'ai pas eu, en fait, de temps de repos réel, long et exclusif. Parce que c'était marqué par l'élan créatif. Et ça reste, je pense, la peur que j'ai maintenant aussi, c'est de me dire que cet élan créatif là, qui m'habite masque toujours une fatigue et d'être quand même toujours en fatigue chronique parce que stress lié à la précarité, parce que stress lié aux enfants, parce que stress... Là, il y a eu le confinement, toutes les dates ont été annulées parce qu'on ne sait pas de quoi... sera fait demain parce qu'on sait qu'on ne va pas vivre de ses droits d'auteur, ça c'est pas pour demain non plus, donc la fatigue chronique, ça je n'en suis pas sortie.
Est-ce que tu sais s'il y aurait une solution?
Ah si, il y a des choses. Ah bah si, écrire un best-seller, ça me mettrait...
ouais, mais pourrais... là, ça ne pas uniquement de
Non, toi. Non, bien sûr. Non, là, ce que j'ai fait, c'est que, bon, d'abord, le corps a tellement été impacté qu'il y a un tel avant-après que c'est que, si tu veux, si maintenant je vais vers une zone rouge, directement, je le sais. Donc, avant, je n'écoutais pas ça du tout. Maintenant, je sais, je peux te dire... là, il faut que je lève le pied sérieusement. Voilà, donc ça, j'ai appris à écouter les signaux. Moi, je n'écoutais pas non plus. si tu veux, mon rythme naturel. Maintenant, je sais que j'ai des petites nuits parfois, à certains moments, que là, je suis très active, je peux écrire la nuit, et puis je sais que je peux siester la journée ou pendant ralentir pendant 2-3 jours, parce que cette vague qui monte, je sais que pendant que ça monte, je peux travailler 3-4 fois plus que normalement, et qu'après, pendant le ressac, c'est quelques jours d'atterrement, enfin, de repli, ouais. Mais je me sens plus coupable de ça, donc ça, j'ai capté comment je fonctionnais, et du coup, je travaille plus à certains moments, moins à d'autres. Et aussi, je crois que ce qui m'a aidée, c'est de faire le deuil, d'abord le deuil de la jeunesse. Donc, c'est-à-dire que je sais très bien maintenant que si je me mets dans un état pas possible après une fête, il va me falloir une semaine pour récupérer. Donc ça, je peux plus m'exposer à ça. Puis le deuil d'un temps qui m'appartiendrait totalement. Donc j'ai un horaire qui est lié aux activités extrascolaires de mes enfants, à ma vie de famille. Mais sauf que maintenant, ce n'est plus comme une espèce de contrainte, quelque chose qui m'enlèverait du temps. C'est que ça fait partie de la donne, c'est le package de la parentalité. Et que oui, je dois aller au foot. Et il faut que j'y sois entièrement, il faut que je sois présente entièrement, ouais, pour mes enfants. Mais plus vivre ça comme une frustration, parce que sinon, tu es tout le temps dans un état... dans un état bizarre. Enfin, tu dois pas sécréter des belles hormones, je crois, ouais, quand tu es...
Il y a ça, et tu dois être finalement dans une course permanente, puisque tu vis jamais rien sur le moment présent, mais que tu es à chaque fois sur le « qu'est-ce que je vais pouvoir faire ensuite ?» Mais ça s'arrête jamais.
Ça s'arrête jamais, ouais.
Tu rattrapes pas le temps.
Non. Et donc d'accepter, voilà, moi, je pense que ce qui me prémunit pour le moment... De refaire un épuisement, c'est ça, c'est le corps, l'écoute du corps et des aménagements à l'intérieur même des journées, voilà, des siestes, de me dire bon, hier j'étais chez ma mère, il faisait beau, j'étais voilà, une demi-heure couchée dans l'herbe, dans son jardin, les pieds nus, et vraiment une reconnexion, une espèce de méditation pendant 30 minutes, et voilà, j'ai ressenti mon énergie qui circulait, mais ça je faisais pas avant, quoi. C'est comme si je courais... en continu.
Donc il y avait quand même la solution était en toi.
Non, la solution n'est pas qu'en moi, la solution elle est aussi tu sais, il faut demander de l'aide,
ouais.
Il faut, ce que je faisais pas avant, il faut s'octroyer, tu vois, si tu veux aller au cinéma, ou il faut que je puisse dire par exemple à ma sœur, est-ce que tu peux garder les enfants, ou à ma mère, ce que je faisais pas non plus avant. Il faut pouvoir aussi alerter, tu vois, les personnes qui... Par exemple, moi, j'habite à Liège. Et avant, je ne disais jamais, voilà, si la réunion était super tôt, je m'organisais pour arriver. Et le fait de dire au donneur d'ordre, ouais, mais attention, moi, j'habite à Liège, donc il ne faut pas que ça commence trop tôt, il ne faut pas que ça termine trop tard non plus, ou moi, je ne peux pas rester pour ceci, cela, ou je ne me fais plus des déplacements pour une heure de réunion... Bah, c'est aussi ton entourage professionnel qui peut mettre des choses en place pour diminuer ton stress. Voilà, ne pas attendre des réponses de mail dans les 2 minutes. Enfin, plein de choses concrètes, comme tout travailleur, en fait. Tu vois, mon ami, j'étais fatiguée depuis plus longtemps que ma fatigue. On dit communément qu'il y a un avant et un après burn-out. On pourrait dire qu'il y a un avant burn-out et un après burn-out. Quand tu es malade, ton point de vue est comme enserré dans un cercle restreint et limité. Tu penses que ton burn-out est né dans l'entreprise pour laquelle tu travailles au moment où la maladie est diagnostiquée, et tu ne discernes pas forcément une lassitude préexistante au lieu incriminé.
Tout à l'heure, tu parlais un petit peu de ton avant burn-out et ton après burn-out. Tu le définirais comment ?
Alors, je le vois comme quelque chose qui n'est jamais vraiment guéri. Je trouve que moi, si je me regarde, je reste quand même sur le fil, parce que bon, tout ce qu'on se dit là, pour moi, ça reste... Ce sont des choses que je dis pour me protéger. Donc, c'est-à-dire, intellectuellement, je sais ce qu'il faut faire Je sais ce que je dois mettre en place, quelle stratégie je dois mettre en place pour essayer de garder une distance, pour essayer de voilà, ne pas faire trop d'heures. Je dois m'imposer en fait une heure pour ne plus lire mes mails. Je dois m'imposer, ce que je n'ai pas encore fait, une réponse automatique quand je prends mes vacances. Voilà, donc je reste à un endroit de vigilance. Parce que je sais que j'ai un tempérament qui va me refaire faire ce que j'ai déjà fait par le passé. Donc là, je sais que j'ai des petites nuits, je peux avoir des angoisses, je peux avoir sur la question, pas sur la question de la confiance, mais sur la question de l'estime, je peux avoir une estime qui peut rester fragile à certains égards. La question de la légitimité est toujours là, en creux. Et puis concrètement, le fait d'être mère de 3 enfants, d'avoir quand même, même si j'ai travaillé dessus, une idée d'un autre temps de la maternité, c'est-à-dire la mère respectable, la mère dévouée, corps et âme, la mère poule, je ne suis pas totalement débarrassée de ces représentations, donc ça me met à un endroit toujours, de près ou de loin, lié à une forme de perfectionnisme ou de... Voilà, je sais pas quoi. Donc pour moi, j'ai l'impression que l'après burn-out, on est toujours un pied dedans et on reste fragile. Et surtout au niveau du corps, on trinque quand même. Hein. Je veux dire, les batteries ont été tellement à plat que, tu vois, même pour quand on dit le GSM, c'est pas bon de laisser sa batterie enfin, tu vois, se mettre à plat. C'est que tu prends quand même des années, je pense que tu perds des années de vie. Je pense que tu trinques, tu prends beaucoup d'années d'un coup dans la gueule et que tu deviens plus fragile.
C'est comme un contrôle sur soi qu'on devrait avoir en permanence pour toujours rester vigilant.
Moi, j'ai l'impression que cette addiction, parce que maintenant, je peux mettre des mots dessus, probablement une forme aussi d'addiction au travail. Elle n'est pas différente d'autres addictions quand des personnes se disent abstinentes. Alors ici, la particularité, c'est qu'on doit continuer à travailler, mais que cette espèce d'hypervigilance au finish, elle va rester là. Parce ouais, que quand la reconversion, moi, c'est ce que je me dis, c'est juste que parce que pour le moment, professionnellement, ça va, je suis en gratitude par rapport à tout ce qui m'arrive, mais... Imaginons que je sois dans le même volume d'heures de travail, mais que ça se casse la gueule, enfin pour x et x raisons, je me remettrai aussi dans un endroit de... je me reverrai enseignante face à des élèves qui n'en ont rien à foutre de mon implication. Et ça, je pense que c'est toujours là.
Comme si ça, il y avait jamais de fin en fait à tout ça, mais peut-être que, enfin, en fait, peut-être qu'il y a simplement pas de fin, mais que c'est juste une indulgence et à cultiver envers soi-même qui est permanente. On en parlait avec une amie l'autre jour. On parlait de l'amour de soi et que je le voyais comme quelque chose à entretenir en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le chemin pour l'amour de soi, mais que on est dans un perpétuel travail d'amour de soi, mais où parfois, comme dans un couple, ben on en a marre de l'autre, on le déteste, mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas dans le fond. Et donc il y a ce travail chaque jour d'entretien, de comment prendre soin de soi.
Oui, tout à fait. Je me dis juste, moi, ma tristesse est juste... moi, j'ai eu cette tristesse-là aussi par rapport à l'artistique, de me dire, oh là là, venir sur le tard... Je me dis juste que ce qui est dommage, c'est que cette attention à soi, on nous l'a peut-être inculquée comme une forme de forfanterie, de vantardise, enfin, ouais. D'égoïsme, alors que c'est un respect de soi, en fait. C'est apprendre à dire non, apprendre à mettre ses limites, l'assertivité, la communication non violente, se construire en se disant que c'est pas parce qu'on met ses limites qu'on n'est plus comment dire, qu'on va être moins aimé, et que aussi si on dit ce qu'on pense, même si la relation se distend ou si l'autre ne comprend pas, ça ne doit pas nous faire nous écrouler. Voilà, donc je pense que c'est d'apprendre jeune. Je pense que c'est ça aussi quand on parlait de comment nous adultes on peut faire ça, on peut prendre des thérapies, on peut être accompagné pour essayer de réparer des choses, tu vois, qui n'ont pas été construites. Mais je me dis, pour les générations avant, quand je regarde mes enfants ou et particulièrement ma fille, je me dis, si elle peut s'éviter ce chemin-là et plutôt déjà construire quelque chose de plus fort au niveau de l'estime, au niveau que dans la balance, tu vois, un patron peut pas te parler comme ça, un milieu peut pas être violent comme ça, ouais, avec toi. Sinon, il faut sortir. Parce que tu vois, par exemple, on parlait de famille. Ma sœur, elle a toujours rendu sa démission quand ça n'allait plus. Boum, elle se levait, le lendemain, c'était démission. Sans peur du lendemain, mais parce qu'elle sentait qu'elle n'était pas respectée dans qui elle était.
J'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux quand même à remarquer cette absence d'estime de soi. Enfin, on n'apprend pas quand on est gosse à prendre soin de nous. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui font attention à ça avec leurs enfants. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas un changement qui va être opéré dans les générations futures, aussi avec tout l'aspect... tout l'entrepreneuriat qui prend de plus en plus de place. Je me demande si c'est pas, si ça va pas être ça finalement le futur, de créer son propre métier.
J'ai l'impression qu'on sent la mutation qui arrive. Moi je sens que je suis entre deux générations, celle de mes parents pour qui être dans un boulot toute sa vie, là je pense que ma mère ça fait je sais pas combien de dizaines d'années qu'elle est dans son travail. Je pense qu'on n'est plus là-dedans, qu'on sait qu'on va avoir plusieurs boulots, et je pense que la génération après encore plus. L'équilibre vie familiale, professionnelle aussi va être une demande faite aux employeurs. Voilà, là, c'est en train de muter, hein, la question du télétravail avec le confinement. Il y a quelque chose qui s'est accéléré aussi dans les aménagements d'horaires pour les boulots où c'est possible. Ouais, ça va bouger. L'entrepreneuriat, d'avoir envie d'être chef de sa barque. Ma sœur se dit entrepreneur-artiste, moi je me dis artiste-entrepreneur. Pour moi, c'est la même logique. Les entrepreneurs, ils se lèvent hop, un jour avec une idée, un truc à faire, et c'est parti. Ils injectent toute leur énergie dedans, ils ont des objectifs, ils font de la com, la prospection, ils ont de la comptabilité, de l'administratif, tout ça. Enfin, pour moi, c'est deux... logique de fonctionnement qui sont la vente, on doit bien dire aussi à un moment donné, il faut vendre des livres, il faut vendre des spectacles. Je trouve que c'est deux logiques très, très imbriquées, très intriquées. Alors, est-ce que tout le monde va aller vers ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut souhaiter à tout le monde aller vers ça? Je ne sais pas. Et alors, c'est deux métiers fatigants, où on compte pas ses heures aussi, où on n'est pas payé au prorata des heures. Tu peux faire beaucoup d'heures, il y a des petits indépendants qui gagnent moins de 1000 euros par mois. Hein. Donc voilà, le salariat, c'est quand même aussi des balises, un cadre, des cotisations pour ta pension, des congés payés, en cas de maladie, en cas de... T'as quand même... on vit dans un pays avec une sécurité sociale voilà, qui permet certaines protections. Moi, je souhaiterais être une artiste salariée. En Belgique, on n'y est pas encore avec le statut, la protection de l'intermittence qui est encore corrélée avec l'allocation de chômage. Mais imagine un pays où le travail artistique, ce n'était pas cette course au cachet, cette course au droit d'auteur, ce stress permanent. Ça n'enlèverait rien, ça n'entamerait rien à ma créativité d'avoir, tu sais, quelque chose d'assez fixe, voilà, qui arriverait et qui me sortirait de la précarité et qui s'approcherait d'une forme de salariat. C'est ce qu'on essaye de chercher dans l'intermittence, etc. Mais... voilà, je ne souhaite pas, moi, d'être... je ne souhaite pas aux gens de devoir sans cesse créer leur masse salariale, sans cesse courir, sans cesse être stressé, angoissé. Moi, je ne souhaite pas ce statut-là. C'est un statut que j'embrasse avec cœur parce qu'il me convient, que j'ai envie de créer mes horaires. Je n'ai pas envie d'avoir d'avoir un patron, etc.
Ouais, ça tend quand même vers une certaine liberté.
Liberté, mais imagine que moi, j'ai plus de voix, j'ai plus de boulot. J'ai plus de boulot, en fait, je vais pas avoir la protection d'un salarié qui va avec. Donc, ça génère quand même du stress. Donc, je souhaite aux gens la liberté, mais je leur souhaite aussi une fin de mois stable. Ma réussite et celle de mes amis, c'est aussi la tienne. Nous avons fait le choix hardi de quitter notre ancien emploi, de créer notre propre activité et, dans cette remontée vers nous-mêmes, notre plus grande force, c'est notre solidarité.
Comment penses-tu être sortie du burn-out ?
Mais en fait, il y a la dimension individuelle, mais je pense qu'avec du recul, c'est quand même la dimension collective. Ça, c'est le fait d'avoir été dans un collectif, le fait d'avoir été entouré d'autres personnes qui avaient fait un burn-out, d'avoir réfléchi ensemble, d'avoir retrouvé dans des associations féministes cette notion de sororité, donc c'est-à-dire sortir la relation entre les femmes de la compétition, de la hiérarchie, des rapports de domination. Je pense que c'est quelque chose, moi, qui m'a aidée vraiment très très fort dans la revalidation, parce qu'en fait c'est aussi à ce moment-là que j'ai recommencé à participer à des ateliers d'écriture et de rencontrer des animatrices d'ateliers d'écriture qui m'ont inspirée, c'est à ce moment-là aussi on a développé les activités avec le collectif El Slam. Moi, j'ai l'impression quand même que cette dimension collective-là, c'est une des portes d'entrée de la guérison. La conscience que... Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des burn-out, qui étaient travailleurs sociaux, enfin, qui ont eu des vies avant. Beaucoup, beaucoup. Et donc, je pense que c'est ça. Toutes des personnes qui avaient des créativités, qui ont été piégées dans des dispositifs de travail qui n'étaient pas faits pour cette créativité-là. Et le fait que par rapport à il y a quelques années, la conscience féministe s'est imposée dans l'espace public, qu'il y a une multiplication d'espaces de parole, de blogs, d'endroits justement qui tentent de dépathologiser ce qui nous arrive, nos expériences, et qui essaye aussi de les ramener en parole collective. Je crois que ça, c'est neuf par rapport à il y a 5-6 ans. Vraiment de se dire sur chacun des sujets, je pensais aux addictions, par rapport à l'alcool, c'est vraiment, et là le travail, mais par rapport à d'autres choses, c'est vraiment alors singulièrement beaucoup de femmes qui font ce travail-là maintenant. Pour d'autres femmes, de récolte de témoignages, et quand ça nous arrive dans nos oreilles, en podcast ou en vidéo, ou en magazine, moi je sens qu'il y a quand même quelque chose qui est à l'œuvre, une construction de déconstruction stéréotypes et construction de nouvelles narrations, de pouvoir redire voilà, t'es pas seule, voilà, c'est normal que dans un système patriarcal, dans un système sexiste, dans un système raciste ou dans un système homophobe, ça envoie des gens à la déglingue, mais aussi il y a des possibilités de résilience, de s'en sortir. Et ça, pour moi, je sens, tu vois, on disait dans le livre, tiens, s'il manque des chapitres, je pense que ça, il y a quelque chose qui a changé.
Parce que tu en parles dans le dernier chapitre, enfin, tu en parles, je veux dire, en tout cas, il y a un prémisse de
oui.
Ça.
Mais là, j'ajouterais vraiment, tu sais que c'est... là, c'est des femmes, quand on a créé cette association, c'est des femmes de mon âge. Mais si je devais ajouter quelque chose, je me dirais, tu vois, là, par exemple, je travaille sur un projet sur la mémoire des femmes qui ont perdu leur mari ou leur fils, qui ont été emprisonnés ou qui ont été enlevés dans des dictatures. Et une des artistes qui était là disait, c'est marrant, ces mamans-là qui n'étaient pas du tout politisées, il a fallu que leur fils soit enlevé ou soit emprisonné pour qu'elles comprennent l'action politique de leur fils, et que tout d'un coup, les disparus, les éduquent, leur apprennent quelque chose. Et donc, c'est la génération en dessous, parce qu'on est toujours dans quelque chose de, que les anciens apprennent aux plus jeunes. Et là, tout d'un coup, c'est la génération, et pour le coup, qui n'est plus là, mais qui, quand même, la génération plus jeune apprend aux aînés à modifier des pratiques, des pensées. Et moi, si je devais ajouter quelque chose, c'est que je sens de plus en plus ça. C'est que je sens qu'il y a des jeunes femmes pour le moment. Alors, je parle, moi, je suis dans la quarantaine, mais dans la trentaine, mais même dans la vingtaine, qui nous disent des choses, qui nous disent pas qu'on a eu tort, mais qui nous disent on a le droit de se sentir légitime et on va pas attendre 40 ans pour continuer à se sentir illégitime. Tu vois, c'est des elles sont, je trouve, plus conscientisées, plus jeunes, et elles nous disent des choses aussi qui nous font changer. Et sur ça, sur l'équilibre, elles disent maintenant, jamais j'irai dans un boulot voilà, qui va me faire chier, un boulot qui... Alors peut-être qu'elles le feront, mais il y a une espèce de cri de jeunesse, de... Voilà, moi qui me révolutionne par, comme si c'était une cascade inversée. Et j'ai l'impression qu'il y a, que dans la société, il y a ça, quelque chose qui est en train de, par cascade inversée, qui est en train de soigner la génération au-dessus, et aussi de nous dire à nous-mêmes qu'on doit se pardonner, en fait, qu'on doit être, comme tu disais, cette bienveillance, cette, on ne peut pas revenir en arrière. Ça a eu du sens, ça s'est passé comme ça, ça fait qui on est maintenant aussi. Mais il y a quand même un appel à, voilà, à être plus bienveillante et se pardonner de, et de dire c'est pas ta faute en fait.
Et d'ailleurs, parce qu'on parle du livre et sur lequel moi je me base depuis le début, « La magie du burn-out », mais qui est plus disponible en ce moment.
Non.
Mais que tu auras quand même l'intention parce que je trouve que c'est frustrant de parler d'un livre et de dire comme il est génial alors qu'il n'est pas disponible.
Non.
Donc on a besoin de mots de ta part, là, d'une, peut-être pas aller jusqu'à la promesse, mais en tout cas...
Si, j'ai envie de me replonger dedans, et je trouve que c'est un beau cadeau là, que tu m'as fait, de relire des passages, du coup, parce que je crois que je l'ai arrêté, avant le confinement, je me disais, voilà, il a vécu sa vie, et mais là, ce qu'on a vécu pendant le confinement, avec une secousse, enfin voilà, nous, nos agendas artistiques, mais une secousse dans le monde du travail en général, et secousse du monde, etc. J'ai senti que, tu vois, la sortie de ce truc-là, la question du burn-out, elle va se reposer de manière spectaculaire aussi.
Oui, bien sûr.
Comment est-ce qu'on va retourner dans les lieux de travail ? Comment le travail à la maison, en fait, aussi dilue les forces des travailleurs ? C'est chacun dans son... dans son lieu de vie, mais il n'y a plus un groupe, tu vois, si on n'est plus en présence, comment les profs qui n'avaient plus vu la tête des élèves, etc., enfin, le distanciel, la perte de la présence, les réseaux sociaux, toute la militance, le fait de ne plus avoir de corps et de panel où les idées se frottent en présence, etc., comment ça, la violence verbale a explosé le burn-out, on va... Voilà, c'est, pour le moment, il y a une autre urgence sociale, une autre urgence sanitaire, mais les travailleurs et les travailleuses, ça a fait mal, quoi, ce confinement.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ?
Peut-être que je réinsisterai sur le fait que, si tu veux, moi j'ai fait un burn-out à un endroit particulier. C'est que je suis une femme qui est diplômée. J'ai un entourage extrêmement bienveillant, soutenant, à 360 degrés. le créatif, il était déjà inscrit en moi et ça a été juste un réveil. Donc du coup, j'ai une réorientation professionnelle qui est particulière. J'ai rencontré des gens, le hasard a mis sur mon chemin des gens qui ont vraiment influencé mon parcours professionnel, mais qui l'ont aussi accéléré de manière exceptionnelle. Donc du coup, moi je peux dire que en quelques mois, ma vie a changé de trajectoire et qu'après, j'étais alignée. Il y a une espèce... Mais en tout cas, c'était atypique. Et quand je rencontre des gens aujourd'hui, des gens pour qui c'est long, hein, ou qui, après même 2-3 ans, sont toujours dans le brouillard et ne voient pas comment s'en sortir, c'est ça que j'ajouterais. C'est que je voudrais dire que ce que je dis là... C'est atypique, c'est pas ça la règle générale du burn-out, c'est que ça prend énormément de temps, c'est que généralement on rentre dans son lieu de travail avec des aménagements ou qu'on sort de là encore plus en difficulté, ou que c'est très difficile, et plus que ça arrive tard, plus c'est difficile de se réorienter, et voilà, et que ça prend énormément de temps, donc que ça peut pas être un exemple de...
Que en tout cas chacun a son chemin et que donc c'est pas parce que on trouve pas sa voie au bout de 7 mois que c'est voilà. C'est un échec et que on est bon à rien. Enfin, c'est simplement que ça prend du temps de toute manière et que ça dépend de chaque personne.
Tout à fait.
Merci Lisette.
Voilà. Merci à toi pour l'invitation. Merci.
Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Gueule de bois sur radiopanique.org et sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Nous nous retrouvons le mois prochain en compagnie de Jean-Pierre. Jean-Pierre est le père de Nora avec qui je discute lors du premier épisode sur le travail. Nous parlons de l'éducation et de la notion du travail qui occupe une place fondamentale.